hors champ. Hors champ, aujourd'hui, avec Miguel Abinsour. Miguel Abinsour, vous êtes philosophe spécialisé depuis des décennies, plus particulièrement dans la philosophie politique. Vous êtes l'auteur de très nombreux ouvrages. Je rappellerai quelques titres, L'esprit des lois sauvages, La démocratie contre l'État, De la compacité, Le procès des maîtres rêveurs, L'utopie de Thomas More à Walter Benjamin, Rire des lois du magistrat et des dieux. Vous êtes un des grands spécialistes de Saint-Just. Vous êtes beaucoup intéressé aussi à l'utopie sous toutes ses formes et aussi beaucoup à la philosophie d'Hannah Arendt. Vous êtes aussi un grand éditeur de philosophie politique. Avant de comprendre les enjeux et les thématiques de votre travail, je voulais savoir si l'enfance que vous avez passée comme enfant caché, puisque c'était une enfance pendant la guerre, vous avez conduit vers l'interrogation de l'appartenance au monde.
D'abord, enfant caché, il faut relativiser. C'était des périodes. Hein. Il y a des tas de périodes où je n'étais pas. Mais quand les choses se compliquaient ou se devenaient encore plus dangereuses que d'habitude, c'était effectivement comme cela que cela se passait. C'est difficile de répondre à votre question parce que je ne suis pas transparent à moi-même. Donc, disons que cette enfance a jeté une certaine ombre sur ma vie, certainement, une certaine inquiétude, et qui renaît, par exemple, en ce moment. Donc,
parce que vous trouvez qu'on traverse un moment d'intolérance et de reviviscence de l'antisémitisme.
Absolument, oui. Enfin, maintenant, par exemple, je prends des précautions quand je sors dans la rue.
Pourquoi ?
Ben parce que, comme ça, j'ai été deux ou trois fois un peu agressé. Donc, je pense que c'est effectivement, mon rapport au monde a dû être troublé par cela. D'autant plus que, comme je le dis dans le livre d'entretien, dans ce village où il y avait une atmosphère très, très rousseauiste encore, puisque c'était début des années 40, eh bien, je savais qu'il y avait des pôles dangereux, et des gens à qui il ne fallait pas parler, et donc j'ai, expérimenté comme ça enfant la division entre amis et ennemis. Donc, ce qui, quand même, je pense, pour un enfant, est quelque chose d'assez troublant.
Et la lecture de textes très tôt vous a conduit à vous posez des questions.
Mon père était interprète à Nuremberg, donc dans son bureau, il y avait tout le procès de Nuremberg. Donc j'ai pas lu les volumes, mais il y avait un volume de photos. Et comme tout enfant, je fouillais dans la bibliothèque de mon père et j'ai découvert un jour ce volume de photos. Et ces photos m'ont tout à fait. Enfin, je m'en souviens encore. De même que je me souviens, parce que mes parents m'ont emmené, je vois, à la sortie du Gaumont Palace, place Clichy, où arrivaient les déportés. Non, je me souviens de ça. Alors, je pense que ça a dirigé mon intérêt vers la politique, et vers la question politique, et peut-être même vers l'utopie, parce que je pense à ce que dit Lévinas, c'est que, au fond, après la Seconde Guerre mondiale, on pourrait penser que toute spéculation utopique est hors de propos. Et Lévinas renversait la proposition en disant « mais non, au contraire ». Peut-être qu'au fond, moi, j'ai fait le même mouvement sans le savoir. Et que comme je trouvais qu'il y avait quelque chose de pourri dans le royaume de Danemark, je me suis orienté vers la spéculation ou la pensée utopique.
Vous avez décidé de vous intéresser à la question du politique. Est-ce que c'était une interrogation justement sur la montée des totalitarismes, les conséquences de ce totalitarisme, ce monde complètement explosé?
Je ne sais pas si j'étais aussi conscient quand j'ai... Non, ce dont je parle, je pense que la période de la guerre d'Algérie a été une période extrêmement sombre, et notamment cette idée que de la torture, enfin qu'il y avait de la torture qui était pratiquée couramment, même par des gens qui avaient fait de la résistance. Donc ça, je crois que ça a été extrêmement troublant pour moi, d'autant plus que une partie de ma famille vivant en Algérie, j'avais été en 57, je crois, faire un séjour d'un mois ou deux, et j'ai jamais vu un pays où les communautés se détestaient autant les unes les autres. Donc ça, je crois que ça m'a assez sérieusement marqué. C'est quand même les forces de gauche qui ont participé à... c'est Robert Lacoste qui a... Et d'une certaine manière, on a vu le mensonge se répandre. Je pense que ça, c'était une expérience assez troublante. Maintenant, je pense qu'à cette époque-là, enfin, je veux dire, quand j'avais 17 ans, je ne sais pas si j'étais conscient du totalitarisme, c'est venu plus tard.
On a l'impression que beaucoup de choses vous sont arrivées par hasard, mais il n'y a pas de hasard. Par exemple, que vous avez eu Gilles Deleuze sur votre chemin, comme directeur de thèse, je crois, oui. Mais vous ne saviez pas qui était Gilles Deleuze.
Enfin, c'est-à-dire, la première fois que je l'ai vu, je ne savais pas qui il était. Mais bon, quand j'étais assez court, j'ai tout de suite compris que c'était le... Voilà, mais... Bon, ça, c'est... Nous avons tous des hasards de cet ordre.
En même temps, ces hasards vous ont conduit à faire des recherches philosophiques sur des philosophes qui ont été ô combien arpentés et dont vous avez finalement exploré des pans totalement inconnus. Et par exemple, là, je voudrais parler de Marx et de ces fameux textes des manuscrits de 1844. Comment et pourquoi avez-vous décidé, dans le champ philosophique, de trouver justement cette part un peu secrète de la philosophie?
Ben là, c'est passé par la... Disons que j'ai lu Marx assez tôt, et tout de suite, j'ai eu le sentiment que Marx était sinon prophétique, comme le dit Hannah Arendt, mais tout au moins, il était habité par la recherche d'une société meilleure. Et ce qui m'a beaucoup étonné, c'est que, après, quand j'ai fréquenté des communistes ou des trotskistes, etc., c'est que cette idée-là, au fond, était absente, ou si...
Recouverte complètement par la doxa marxiste, oui.
Et si on les mettait, cette idée, elle était mal accueillie. Alors, bon, on pourrait penser que, d'une certaine manière, ça, c'est propre à la France, où le radical-socialisme a considérablement marqué les esprits. Hein, parce qu'effectivement, dans des pays comme l'Allemagne ou comme l'Italie, cette question existe. Hein. Donc, très vite, c'est au moment de ma thèse, j'ai essayé de lutter contre ce bannissement de l'utopie de la pensée critique. Et c'est là que j'ai mis Engels de côté. Et que je me suis intéressé à Marx, puisque quand même chez Marx, il y a des quand il parle des utopistes, il distingue entre ceux qui sont dans l'ombre du présent et qui finalement ne font que reproduire le présent, et puis ceux qui donnent une expression imaginative d'un monde nouveau, parmi lesquels il compte effectivement les trois grands, la triade, Saint-Simon, Fourier et Owen. Mais simplement, je me suis dit que ça ne suffisait pas, parce que ça, c'est au fond une espèce de descendance littéraire ou d'héritage littéraire. Alors, ce qui m'intéressait, moi, c'est comment le rapport qu'il y avait entre la forme de la pensée de Marx et la forme la pensée des utopistes. Et c'est là que, en travaillant, j'ai découvert La Briola, l'essai sur la conception matérialiste de l'histoire, où il parle de prévision morphologique. C'est-à-dire qu'il ne s'intéresse pas à la cuisine de l'avenir, comme il le disait, mais il s'intéresse à la forme d'une société, à une formation sociale supérieure au capitalisme, et que bien évidemment, on peut lire toute son œuvre comme portée par cette recherche, beaucoup plus que portée par l'économie politique, puisque d'une certaine manière, comme vous savez, il voulait très vite apprendre l'économie politique, en faire la critique et puis s'en débarrasser. Et puis ça a duré toute sa vie. Mais n'empêche que le véritable nom de la pensée de Marx, il le dit lui-même, ça n'est pas socialisme scientifique. Il n'a jamais parlé lui-même de socialisme scientifique, sauf quand on lui attribuait. C'était le communisme critique, ce qui est quand même beaucoup plus intéressant que de penser le socialisme scientifique. Voilà ce qui m'a porté à ça. Alors effectivement, dans les manuscrits de 44, on trouve, si vous voulez, ce qui permet philosophiquement de passer d'une conception, statique et dogmatique du communisme, enfin ce qu'il appelle le communisme grossier, à une conception critique par la mise en rapport du travail aliéné avec le mouvement du développement humain. Et en sachant que la catégorie de travail là n'est pas une catégorie économique, mais une catégorie ontologique. Et c'est là qu'on voit qu'à ce moment-là, la propriété n'est plus un élément statique, mais est prise dans toute une histoire du travail aliéné, etc., qui porte aussi la suppression de ce travail aliéné, la suppression de cette propriété. Donc ça, je crois que c'est très important, c'est une dimension, me semble-t-il, ineffaçable de l'œuvre de Marx.
Mais c'est ce que vous faites depuis des décennies, Miguel Abansour. Vous désembourbez, vous enlevez la gangue des différentes interprétations sur des penseurs majeurs. On reviendra sur Hannah Arendt. On reviendra aussi sur, évidemment, Marx et sur Fourier, Owen, etc. Mais je me demande si cette force de nouvelle interprétation ne vient pas aussi d'un penseur qui aujourd'hui, hélas, est un peu trop oublié et qui a été très important pour vous et pour nous tous. Nous allons l'écouter. Il s'agit de Pierre Clastres. C'était au micro de Jean-Jacques Lebel. Il va parler de la notion de parole et de dette pour faire une comparaison entre le chef dans la société primitive et le chef dans la société moderne. Pierre Clastres était anthropologue et il travaillait sur les populations indiennes. C'est une archive de l'atelier de création radiophonique, 18 février 1975.
Le chef, il est d'emblée, en tant que chef, installé dans le domaine de la parole. Il est dans la dette et il paye sa dette, entre autres, sous forme de discours. De sorte que, généralement, dans une société primitive, en tout cas dans une tribu indienne, l'homme qui parle, c'est le chef. Et inversement, le chef, c'est l'homme qui parle. Les discours sont quotidiens. Ils s'adressent le matin, quand le jour apparaît, ou le soir, quand les gens vont commencer à dormir. Il fait un discours. Il peut ne pas être long. Et dans ce discours, il ne dit rien spécialement. C'est ce que j'appelle un discours édifiant. La grande différence entre, disons, le discours du chef sans pouvoir et le discours du chef qui a le pouvoir, c'est-à-dire du chef d'État, c'est que le chef d'État, il n'est pas dans la dette, lui. Même s'il parle, c'est pas du tout qu'il le doit à la société. Le discours du chef sauvage, il faut l'entendre, enfin nous, occidentaux, comme un paiement de dette. Le chef, c'est la source d'un flux de discours qu'il doit à la société.
Nous venons d'entendre la voix de Pierre Clastres, Pierre Clastres qui était anthropologue, Pierre Clastres qui avait écrit ce livre fondamental qui s'intitule « La société contre l'État ». Pierre Clastres, que les hommes politiques et les femmes politiques devraient relire, je trouve, en
ou
ces temps...
Ou
devraient lire, découvrir, effectivement, en ces temps tourmentés dont vous avez parlé tout à l'heure, Miguel Abansour. Pierre Clastres, sur lequel vous avez écrit votre premier livre publié, qui s'intitulait « L'esprit des lois sauvages, Pierre Clastres, ou une nouvelle anthropologie politique ». Pierre Clastres qui a développé une pensée ô combien incandescente et très très pertinente, La société contre l'État, à quoi sert un chef? Comment l'articulez-vous à l'intérieur de votre vision de la philosophie politique occidentale?
Je dirais que quand j'ai lu la première fois l'article dans Critique, Copernic et les sauvages, je veux dire que j'ai eu un choc intellectuel parce que je trouvais là pour la première fois quelqu'un qui avec une clarté extraordinaire bouleversait complètement tous les a priori de la philosophie politique et notamment cette idée que il n'y avait pas de enfin que l'idée de société sans État n'était pas une idée satisfaisante puisque bien évidemment ça à ce moment-là ces sociétés sauvages n'étaient pensées que sous le signe du manque ou du déficit. Alors que Clastres nous a appris à voir quelque chose là où les anthropologues ne voyaient rien. Donc, ce qui est effectivement, vous avez raison que Clastres a été très important pour moi, parce que c'est quelqu'un qui m'a montré qu'est-ce que c'était que de penser à contre-pente et ne jamais se laisser écraser par la doxa ou même le consensus scientifique sur un point. Donc ça, je reconnais tout à fait ma dette à l'égard de Clastres. Et même quand j'ai... Puisque je lui ai attribué un contre-Hobbes, j'ai écrit un texte sur le contre-Hobbes de Pierre Clastres, et d'une certaine manière, l'inspiration de Pierre Clastres continue à me travailler, puisque d'une certaine manière, j'aimerais bien un jour arriver à écrire un contre-Hobbes personnellement, par exemple, pour savoir pourquoi toujours la politique commence par l'idée d'ordre. C'est une évidence, semble-t-il, mais il faut secouer cette évidence, il faut bouleverser cette évidence.
Alors, vous êtes le grand spécialiste de Saint-Just. Là aussi, vous avez bouleversé les codes d'interprétation de l'historiographie révolutionnaire. Je crois que vous êtes inscrit en faux contre les thèses, notamment d'Albert Soboul et d'autres, et que vous n'aimez guère les thèses de François Furet sur la Révolution française. Est-ce que la figure de Saint-Just peut nourrir encore notre imaginaire et notre manière de considérer le politique aujourd'hui? Et là aussi, il faut sortir des schémas de oui. surinterprétation dans lesquels oui. il se retrouve encore.
Non, là, j'étais favorisé par une chose, parce que quand j'ai commencé à travailler Saint-Just, on venait de déposer, enfin, la famille Carnot venait de déposer aux Archives nationales son manuscrit de la nature. Et donc, je me suis attelé à la lecture de ce texte, qui n'est pas un texte facile. Et donc, effectivement, j'ai pu, si vous voulez, avancer dans la connaissance de Saint-Just. Ce qui est intéressant chez Saint-Just, c'est qu'il y a une critique de la domination. Ça, c'est évident, il y a une critique de la domination. Mais je pense que sa grandeur, c'est que il a perçu lui-même que l'exercice de la terreur avait des conséquences catastrophiques, parce que si la politique a la vertu du courage comme vertu suprême, la terreur décourageait les révolutionnaires. Et en ce sens-là, comme il dit dans cette phrase, la révolution est glacée. Ça, je pense que quand vous me dites l'actualité de Saint-Just, je pense que l'idée d'hibernation de la révolution, qui a été reprise par les situationnistes, par exemple, c'est une idée qui est tout à fait valable, parce que combien de révolutions ont terminé glacées. Donc, il y a cet aspect-là. Et puis, l'autre aspect qui m'a beaucoup intéressé, c'est les institutions républicaines. C'est-à-dire que c'est ma lecture, je sais qu'elle n'est pas partagée, mais peu importe. Je pense qu'il a essayé, justement, quand il a vu que la révolution était glacée, qu'il fallait sortir de la terreur, mais ne pas en sortir par la voie des indulgents, c'est-à-dire finalement renoncer au projet révolutionnaire, mais en sortir par des institutions qui permettrait à la République, dans sa faiblesse, de persister à travers le temps. Alors, évidemment, c'est un projet incoatif et c'est injuste, puisqu'on sait que c'est en mission qu'il notait sur un carnet, et puis c'était des projets de discours, puisqu'il avait l'intention de faire des discours sur les institutions. Donc, ce n'est pas une pensée très développée, mais c'est quand même néanmoins une pensée très intéressante, et que, justement, celui dont vous parliez tout à l'heure, Gilles Deleuze a été très intéressé par les thèses de Saint-Just sur les institutions républicaines et cette idée que finalement l'institution était supérieure à la loi parce que dans l'institution il y a la matrice d'une anticipation. Hein, et la matrice d'une altérité, tandis que la loi, au fond, on peut la considérer soit comme une limite, soit comme un écart, mais du côté elle n'a pas d'anticipation, elle ne porte pas en elle d'anticipation. Donc voilà les points qui me semblent encore intéressants chez Saint-Just. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que si on lit Saint-Just, c'est la modernité de son écriture. Je veux dire, par exemple, si vous lisez Condorcet, c'est intéressant sur le fond, mais il faut avoir beaucoup de courage pour lire tous les textes de Condorcet. Tandis que Saint-Just, c'est comme Pascal, hein, s'il a la même écriture que Pascal. Et d'ailleurs, il avait une façon d'écrire tout à fait intéressante, parce qu'il se mettait dans son jardin, il avait plusieurs tables, et puis il marchait d'une table à l'autre, il écrivait une phrase sur une table et puis une phrase sur une autre table, et le soir il ramassait tout ça et puis il essayait d'en faire quelque chose. Et donc ça, je crois que c'est tout à fait il y a quelque chose de pascalien aussi là, c'est-à-dire il saute les idées intermédiaires et en espérant que justement il va y avoir une espèce d'explosion entre des idées différentes.
Vous avez contribué à donner aussi une nouvelle lecture de textes politique et journalistique de Hannah Arendt. Là aussi, vous l'avez revisité à votre manière. Vous avez aussi relu pour nous Emmanuel Lévinas et vous avez rappelé les enjeux politiques à l'intérieur de l'œuvre d'Emmanuel Lévinas, alors que nous, on le voit plutôt et on le range plutôt dans une sorte de philosophie morale. Est-ce que ces deux philosophes, Hannah Arendt et Lévinas, qui d'ailleurs se connaissaient bien, sont aujourd'hui pertinents pour comprendre les tourments que nous vivons?
Ah, tout à fait, oui, je pense qu'ils sont tout à fait. Et justement, ce qui m'a passionné chez Hannah Arendt, c'est ce que j'ai essayé de montrer, c'est une critique de la philosophie politique, parce que je trouvais absolument insupportable quand j'ai commencé à travailler cela. C'est par exemple une fois j'ai fait une conférence à la Sorbonne sur Hannah Arendt contre la philosophie politique et j'étais accueilli par un éclat de rire général comme si j'étais tout à coup un aliédé qui voulait déboulonner la plus grande philosophe politique de notre temps. Ça, je veux dire que j'ai toujours été très étonné parce que si on regarde les textes, hein, dans le journal de pensée, elle dit à propos de la grande tradition, il dit dans la grande tradition, il y a quelque chose de fondamentalement faux, et c'est cela qui a dû nous y conduire, au totalitarisme, et il y a cette fausseté qui est cachée dans toute la philosophie politique de l'Occident. Dans une lettre à Jaspers, elle essaye d'expliciter ce fondamentalement faux, et ce fondamentalement faux, c'est au fond l'ignorance des philosophes politiques de la pluralité de la condition humaine, c'est-à-dire qu'ils partent toujours de l'individu, mais ils ne partent pas de la pluralité de ce que ce sont les hommes qui habitent la Terre. Et à partir de là, j'ai trouvé que il y avait toute l'œuvre arendtienne qui pouvait apparaître, et notamment quelque chose qui, moi, m'a paru à la fois magnifique et très intéressant, c'est que c'est un penseur à la fois du commencement, mais elle est un penseur du commencement parce qu'ontologiquement, elle valorise la natalité,
l'acte même de naître, oui.
Au lieu de l'être pour la mort.
Contrairement à Heidegger.
Contrairement à Heidegger. Donc, Donc je pense que ça, c'est tout à fait important, et surtout cette idée de penser l'action comme effectivement la mise en œuvre de cet être pour la naissance et pour le commencement, et pour le recommencement du commencement.
Et chez Emmanuel Lévinas, on peut aussi trouver des concepts qui nous permettent peut-être d'essayer d'atteindre un tout petit peu le vivre ensemble.
Ah ben oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Non, mais c'est-à-dire que...
Sauf qu'on ne peut pas passer sa vie à lire de la philo, donc...
Non, c'est-à-dire que ce que vous disiez tout à l'heure était très juste, c'est que quand j'ai commencé à travailler sur Lévinas, je me souviens d'ailleurs quand j'étais au collège, c'était la même chose, c'était le tout éthique. C'est-à-dire que, bon, il y avait un certain nombre de philosophes qui considéraient que finalement le totalitarisme c'était l'excès de la politique et qu'il fallait sortir de la politique et choisir soit le tout éthique, soit l'esthétique, etc. Bon, je pense le contraire. Je pense que le totalitarisme c'est la destruction de la politique. Donc si on en sort, eh bien à ce moment-là il faut essayer de repenser la politique et non pas choisir l'éthique, etc. Justement, déjà, je suis parti de là. Et puis, je suis arrivé à Lévinas et... Enfin, je crois que les deux chemins sont les suivants. C'est-à-dire que, d'une part, j'ai travaillé beaucoup sur Buber, qui a écrit en 49 un livre qui s'appelle « Chemin en utopie », et qui est un livre tout à fait passionnant, parce qu'il il montre qu'il y a une positivité de l'utopie, qui est bien au-delà de la définition vulgaire, mais aussi bien au-delà de la critique engelsienne. Et même, il attribue à Marx, dans sa correspondance avec Vera Zasulich, une certaine position assez favorable à l'utopie. Donc j'ai lu Buber, bon, qui est un des maîtres de Lévinas, et puis j'ai lu ce socialiste français qui est Pierre Leroux, qui est un penseur assez étonnant et qui a écrit dans les années 1840 deux volumes qui s'appellent « De l'humanité ». Donc c'est un peu par là que je suis arrivé à Lévinas, et au fond... J'ai cherché chez Lévinas, mais ce que j'avais trouvé chez Buber et ça, mais j'étais saisi par la grandeur philosophique de son œuvre. Et ce qui m'est apparu aussi assez vite, c'est que à l'époque, on faisait de Lévinas penseur des droits de l'homme, penseur libéral pour voilà. Et je me suis que donc un penseur sage. Et en fait, je pense qu'il n'est pas du tout sage. Hein, et là, il faudrait explorer tout son rapport à la littérature russe, hein, qui certainement est constitutif. Et donc, la première chose que j'ai travaillé, c'est sur l'utopie. Ce que j'ai appelé, j'ai fait une conférence, s'appelle "Penser l'utopie autrement".
Et vous n'êtes pas sage non plus, Miguel Abinsour. Dernière question, vous qui passez votre vie depuis des décennies à lire les textes fondateurs de la philosophie politique. Est-ce que ça pourrait irriguer la pensée de ceux qui nous dirigent ?
Bon, ceux qui nous dirigent, ça j'en doute fort.
Mais comment ça peut infuser à l'intérieur de notre société ?
Ça, on ne sait jamais quel est le destin d'un texte. Hein. C'est pour ça que les écrivains disent « va mon livre ». Et puis après, on ne contrôle pas ce qu'on a écrit. Non, hein. Mais je pense que si... d'une certaine manière, ça redonne foi dans l'utopie. Hein, je pense que là, il y a quelque chose de tout à fait important, parce que je pense qu'il n'y a pas de politique possible sans une dimension utopique. Et justement, ce qui m'a beaucoup intéressé chez Lévinas, mais ça c'est assez récent, c'est que d'une certaine manière, il a découvert qu'il y avait un rapport entre l'époque phénoménologique et l'utopie. C'est-à-dire qu'au fond, pour lui, l'utopie fonctionne comme l'époque phénoménologique. Et ça, je crois que ça, c'est très, très intéressant et très, très important.
Merci Miguel Abinsour. Je rappelle que la plupart de vos livres sont réédités en livres de poche aux éditions Sens et Tonka. Merci à toute l'équipe de Hors-Champ. Merci à Alain Joubert, Samuel Bernard, Corinne Amard, Élodie Royer, Anne Kobilac et Didier Lagarde. Vous écoutez France Culture. Bon après-midi.